Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session organisée par l'Académie MEDEF, donc aujourd'hui sur la thématique de l'Europe, comment ça fonctionne. Et pour cela, nous accueillons Marie-France van der Volk et son équipe. C'est à vous.
Merci Céline, bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, on a la chance, donc d'abord merci à l'Académie de nous avoir donné cette opportunité, merci à vous toutes et vous tous de vous être connectés pour nous écouter. C'est une première pour moi, mais j'ai suivi quelques séances et je les trouve toujours de qualité, donc j'espère qu'on saura être au même niveau que mes prédécesseurs et prédécesseuses. Alors, tout d'abord, une petite remarque, parce qu'en effet, l'Europe, comment ça marche? Certains m'ont demandé, mais concrètement, ça veut dire quoi l'Europe, comment ça marche? J'aurais dû dire les institutions, comment ça marche? Donc, en effet, l'idée, c'est qu'on a trois sessions. Aujourd'hui, c'est la première. Elle se veut être une session de montée en compétences. Donc, quand j'ai vu, Céline a eu la gentillesse, ainsi que Gauthier, de me partager la liste des présents. J'ai peur que pour certains, vous n'allez pas tomber de l'armoire, hein, c'est définitivement sûr. Mais j'espère quand même qu'on va vous éclairer sur pas mal de choses. Et puis surtout pour tous les autres, s'il vous plaît, l'idée c'est que l'Europe devienne facile pour tout le monde. Et donc n'hésitez pas à poser des questions. Je sais aussi que beaucoup de présents aujourd'hui sont dans notre suivi législatif mensuel. Donc là, on va pas rentrer dans le sectoriel. Pour rappel, on a trois sessions. La première session, c'est aujourd'hui, c'est donc comment ça fonctionne. La deuxième sera le 25 mai, le lobbying européen, un levier fondamental. Donc on rentrera un peu plus dans ce qu'est le lobbying. Parce qu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les institutions et la compréhension de ces institutions. Et le dernier thème sera l'Europe en cas pratique. Et là, on reviendra sur des cas en fait de lobbying pour justement voir comment on met en fait en œuvre à la fois cette première session, vous saurez tout sur les institutions. La deuxième session, on vous aura expliqué un peu les stratégies, ce qu'on met derrière des choix, des amendements et autres pour arriver à des cas pratiques. La structuration aujourd'hui, donc ça a été un travail d'équipe, hein, tous ces slides, mais aujourd'hui je suis plus particulièrement accompagnée de Marie-Christine qui est en visio. Et Margot qui est avec moi. Et donc, on va commencer tout de suite par le début du début, hein, c'est-à-dire le rôle de l'Union européenne, avec un petit rappel des essentiels et des zooms qui nous ont paru essentiels et importants, la hiérarchie des normes et le périmètre des compétences. Marie-Christine, c'est à toi.
Merci Marie-France, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, effectivement, moi, je suis en direct de Bruxelles. Et j'espère surtout que vous resterez sur l'armoire, même si on va commencer par un rappel des essentiels. Alors, l'Union européenne, on va commencer par là, c'est quoi? C'est une association volontaire et un partenariat unique entre les États membres. Elle existe juridiquement, c'est assez important, et elle constitue à ce jour une organisation unique. Vous le savez, et la carte le montre, il y a 27 États membres. Oui, nous étions 28 avant le 31 janvier 2020, mais le Royaume-Uni, et en tous les cas les citoyens britanniques, ont préféré quitter l'Union européenne. Là, on voit bien la carte, peut-être un flash un peu prospectif. Quels pourraient être les prochains États membres qui rejoindraient l'Union européenne? Comme ça, je vous les donne: Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Turquie et peut-être Bosnie-Herzégovine et le Kosovo. Comme je vous l'ai dit, l'Union européenne a une structure juridique. Sur quoi est-elle basée, cette structure juridique? Elle est basée sur des traités. Alors, je ne doute pas que vous pouvez tous avoir à l'esprit certains traités. Concrètement, que contiennent les traités? Les traités contiennent toutes les règles qui guident les travaux de l'Union européenne. Ces traités sont modifiés au fil des années, notamment quand il y a des élargissements. mais aussi quand le fonctionnement de l'Union européenne a besoin d'être adapté. Il y a quelques travaux dans le bâtiment ici, j'espère que ça... vous n'entendez pas trop
On
le bruit.
t'entend très bien, Marie-Christine.
C'est parfait, merci. Donc, en fin de compte, l'Union européenne, elle est vraiment traitée, elle est vraiment fondée sur l'état de droit. Les traités, ce sont des accords contraignants, ça c'est important, le mot contraignant, qui ont été adoptés par tous les États membres. Alors, depuis, je ne vais pas vous faire un historique naturellement, mais depuis 1957, je suis sûre que entre le traité de Rome, Nice, Maastricht, ça, ce sont des noms, en tous les cas, de villes qui vous parlent. Aujourd'hui, ce qui gouverne l'Union européenne, c'est le traité de Lisbonne, qui depuis a été consolidé parce qu'il y a eu quelques ajustements. Et aujourd'hui, on parle du TFUE. Il y aura quelques acronymes, je suis désolée, qui veut dire simplement le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Je vous l'ai dit, souvent les traités sont modifiés. Alors, est-ce que c'est une possibilité aujourd'hui? Oui. La présidente de la Commission européenne, la présidente du Parlement européen espèrent qu'il y aura une modification du traité et soutiennent l'idée d'avoir une convention constitutionnelle pour réformer l'actuel. Vous vous souviendrez pour certains que la dernière constitution était présidée par le président Giscard d'Estaing. Ça, c'est sur l'aspect, je dirais, un peu juridique. Alors, quels sont les objectifs de l'Union européenne? Je ne vais pas tous vous les citer. Elles sont
Merci
sûrement tous
Marie-Christine,
les
ça sera bien de ne
objectifs.
pas tous les citer en effet. Il ne faut pas qu'on perde notre
Il y en a
public.
plus d'une vingtaine, mais je vais juste faire un focus sur quelques-uns parce que ça, c'est important. En tous les cas, à l'intérieur de ces frontières, vous en avez quatre importants. Promouvoir la paix, ça, je pense que tout le monde le sait. Établir un marché intérieur. Établir une union économique et monétaire, et notamment une monnaie unique. Et parvenir à un développement durable. Et au-delà de ces frontières, un objectif, affirmer et promouvoir ses valeurs et ses intérêts. Et je pense que, notamment après, c'est ce que l'Union européenne a fait après je dirais, la déclaration du président américain, Biden avec son plan d'investissement. Simplement, ces objectifs servent de base à la définition de l'ensemble de la réglementation européenne. Après les objectifs, un mot sur les valeurs. Y a-t-il des valeurs communes à l'ensemble des États membres? Oui. La première, c'est naturellement la démocratie. La démocratie, rapidement, dignité humaine, liberté, égalité, état de droit et respect des droits de l'homme. Combien y a-t-il de langues? Tout le monde pense à l'anglais uniquement. Non, il y a 24 langues au sein de l'Union européenne. Un hymne, je ne vais pas vous le chantonner, c'est naturellement l'Ode à la joie de Beethoven. Le drapeau, vous le connaissez. Il y a une journée de l'Europe, c'est le 9 mai. C'est assez important, c'est en tous les cas le jour où les institutions européennes, elles, sont fermées. Et puis l'Union européenne a un périmètre de compétences. Vous le voyez, et ça c'est quand même très important, c'est que les États membres, quand ils sont membres de l'Union européenne, ont délégué certaines compétences au niveau européen. Donc l'Union européenne a soit des compétences exclusives, et vous voyez l'ensemble des domaines, soit des compétences partagées, soit dans certains cas des compétences en appui. Peut-être la slide, la diapo suivante. La hiérarchisation des normes. C'est quand même important et si je peux avoir la slide, ce sera d'autant plus simple. Voilà. Droit primaire, tout en haut de la pyramide. Après, vous avez les accords internationaux et le droit dérivé. Sous droit dérivé, vous avez deux types d'actes, les actes législatifs et les actes non législatifs. Pour nous, pour vous, c'est principalement ce sur quoi nous travaillons, c'est naturellement tout ce qui relève du droit dérivé. Enfin, juste un mot sur qu'est-ce qui prévaut, le droit européen ou le droit national? La réponse est simple, c'est le droit européen et la balance aurait dû être un tout petit peu différente. Il n'y a pas d'égalité, donc c'est le droit européen qui prévaut sur le droit national. Si on revient un petit peu après sur le marché unique, alors on pourrait en dire en faire des pages et des pages sur le marché unique, mais je pense quand même que c'est vraiment une des valeurs et des objectifs réussis de l'Union européenne, même si on le sait, la mise en œuvre de l'ensemble des réglementations dans le cadre du marché unique sont toujours en cours. Sur la monnaie unique ou presque, en fin de compte, c'est l'euro, naturellement. C'est plutôt une monnaie partagée, alors pas à 27. Et pour l'instant, il n'y a que 20 États membres sur 27 qui ont pris l'euro comme monnaie. Et certains pays, on le sait, ne prendront jamais l'euro parce que préfèrent continuer avec leur propre monnaie. C'est le cas notamment du Danemark et de la Suède. Enfin, je terminerai par l'Union européenne, un acteur sur la scène internationale. Alors, oui, certainement, peut certainement mieux faire, c'est évident, mais en tous les cas, je l'ai dit juste au début, dans les objectifs de l'Union européenne, c'est faire respecter ses intérêts. Et de plus en plus, l'Europe est présente sur la scène internationale. Et il me semble que je rentrerai dans le détail, mais je pense sinon que je vais dépasser mon temps de parole. Je repasse la parole à Paris.
Merci Marie-Christine. C'est vrai que c'était ce slide est à la fois intéressant parce qu'il est assez dense. Je pense que tout le monde, on regrettera que tu n'as pas chantonné l'eau de la joie, mais je pense que c'est pas grave, on aura peut-être d'autres occasions. Donc je vous propose du coup qu'on revienne sur les institutions, puisque donc là, le panorama que vient dresser Marie-Christine, vous le savez, c'est vraiment un peu tout ce qu'il y a dans l'imaginaire par rapport à l'Europe. D'ailleurs, ça a permis de remettre aussi un peu, si je peux me permettre, l'église au milieu du village avec la primauté du droit européen que certains oublient. Je sais que Gauthier nous avait demandé justement de garder en tête que ce qui pouvait intéresser notre public, c'était de voir aussi le parallèle avec le Parlement français, avec les institutions françaises. Et donc là, ça nous permettra peut-être, en rentrant un peu plus dans les institutions, d'y revenir. Et donc, Marie-Christine, le Conseil européen, qui impulse un peu toute la politique européenne, c'est pour toi. Par contre, avec le micro.
C'est souvent mieux. Je disais donc que je reprends la parole simplement pour vous présenter une des 7 institutions européennes, qui est le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est qui? C'est en fin de compte les 27 chefs d'État ou de gouvernement qui y siègent. Ils se réunissent à peu près au minimum 4 fois par an. À Bruxelles, souvent d'ailleurs les jeudis et vendredis. La prochaine réunion, je me permets de vous le dire, sera déjà le 29 et le 30 juin. Un mot quand même sur pourquoi chef d'État ou de gouvernement, parce que selon les pays, naturellement, ça peut être un président, ça peut être un premier ministre ou ça peut, par exemple en Allemagne, être niveau chancelier. Dans ces réunions, qui sont invités? Alors, naturellement, elles sont présidées par le président qui est permanent et qui est le Belge Charles Michel. Sont conviées également la présidente du Parlement européen qui fait souvent un petit mot d'introduction. Et puis, selon les thématiques abordées, vous pouvez avoir la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, et puis des invités clés, notamment par rapport à l'actualité géopolitique, comme le président ukrainien Zelensky. Concrètement, son rôle, c'est de donner à l'Union européenne l'impulsion politique nécessaire et fixer les grandes orientations politiques. Le Conseil européen peut intervenir aussi pour débloquer des situations politiques ou, dans certains cas, quand il y a de vrais blocages au niveau des institutions, donner là aussi un petit coup de boost. Le Conseil européen, le niveau chef d'État, n'est pas dans le législatif et dans l'adoption de la réglementation. Il se réunit 4 fois par an. Sa prise de décision, elle est beaucoup plus simple, c'est par consensus. Sinon, on serait dans des blocages permanents. Qu'est-ce qui sort de ces réunions du Conseil? Ce sont des conclusions. Ces conclusions sont naturellement publiques. Ce qui est intéressant, et c'est souvent notre rôle, c'est de faire le décryptage de ces conclusions. Et on voit bien ce qu'il y a derrière. Soit les chefs d'État, de gouvernement, dans leur wording, dans leur rédaction, parlent de « on va continuer, on soutient », ou alors dans certains cas, quand il y a des, je dirais, pas forcément une mésentente, mais en tous les cas pas un accord ou un soutien de l'ensemble des États membres, vont avoir une rédaction beaucoup plus soft. Et c'est par exemple le cas sur le fonds de souveraineté, lorsque ça a été discuté au dernier Conseil européen. Est-ce que 4 réunions par an suffisent? Non, il y a aussi naturellement des intermèdes, soit des réunions informelles où les 27 se réunissent mais ne sortent pas de conclusions, des réunions extraordinaires en fonction naturellement de l'actualité politique et dans ce cas-là, vous avez des conclusions. Enfin, sur le volet international, le Conseil européen est présent naturellement. On l'a vu notamment sur ce qui se passe en Ukraine et l'invasion russe. On le voit aussi sur, je dirais, l'impact du plan d'investissement américain sur l'Europe. Donc, il y a à chaque fois, c'est vraiment le Conseil européen, c'est l'impulsion politique. Et juste une petite recommandation, ne confondons pas le Conseil européen et le Conseil de l'Europe. Ce sont des structures qui n'ont rien à voir. Les membres du Conseil européen, les 27 États membres, sont membres du Conseil de l'Europe, mais le Conseil de l'Europe, qui est basé à Strasbourg, ne parle uniquement d'unité de l'homme. Voilà, un focus assez rapide sur…
Merci Marie-Christine. Donc, après c'est vrai qu'après le Conseil de l'Europe, l'idée, c'est que la Commission européenne est quand même l'organe le plus visible, le plus connu, celui que vous voyez dans les journaux TV, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sort, il y a eu des rencontres et autres. Donc, Margot, la Commission européenne. Dis-nous tout.
Merci Marie-France. Donc voilà, donc ce nouvel acteur qui est vraiment au centre du système institutionnel, la Commission européenne a vraiment pour mission de défendre l'intérêt général de l'Union européenne. Et donc c'est pour ça que vous en entendez très souvent parler. Et elle dispose du coup de larges pouvoirs. Et on va pouvoir les décrire tout de suite. Alors qui la préside, c'est Madame Ursula von der Leyen, qui est l'ancienne ministre de la Défense allemande et qui y siège. Y siège en fait 27 commissaires, donc un commissaire pour chaque État membre, qui a la responsabilité d'un portefeuille d'activité en particulier. Donc on va retrouver le commissaire au marché intérieur, qui est d'ailleurs le français Thierry Breton, mais on a aussi le commissaire à la justice, Didier Reynders, la commissaire à l'énergie, Kadri Simpson, etc. Donc l'ensemble de ces 27 commissaires va former le collège des commissaires et ce collège va se prononcer collectivement sur les stratégies et les politiques de la Commission européenne. Il va proposer des actes législatifs, des programmes de financement, etc. Comment cette Commission européenne est désignée? Donc elle est nommée pour 5 ans, donc elle sera prochainement renouvelée en 2024. Elle est nommée suivant donc une procédure qui est inscrite dans le traité de l'UE. Donc en fait, à chaque élection du Parlement européen, le Conseil européen, donc ce que vient de vous présenter Marie-Christine, propose au Parlement un candidat à la présidence de la Commission européenne. Une fois que ce candidat a été élu au Parlement, le Conseil nomme avec ce nouveau président une liste des autres commissaires. Et ensuite, cette liste est à nouveau votée par le Parlement européen. C'est un petit peu... voilà, il y a différentes phases de désignation. Ensuite, quelles sont les missions et les compétences de la Commission européenne ? Donc, comme je vous le disais en introduction, sa principale mission, c'est de défendre l'intérêt général. Donc, elle va exercer plusieurs fonctions. La première, c'est le pouvoir d'initiative législative. Donc, ça va être la Commission qui va être l'auteur de toutes les productions, de toutes les propositions d'actes législatifs, que ce soit des règlements ou des directives. Et là, on en reviendra tout à l'heure. Ensuite, elle a une mission de contrôle, c'est-à-dire qu'elle va s'assurer que le droit de l'Union européenne est respecté dans tous les États membres. Et généralement, on la surnomme la gardienne des traités. Et enfin, elle va veiller au respect également des règles de concurrence. Et donc, c'est pour ça que parfois, elle peut infliger des amendes à certaines entreprises qui sont en infraction. Et sa dernière mission, elle a des compétences d'exécution, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui confier de proposer en fait ce qu'on va appeler, on verra tout à l'heure, des actes délégués ou d'actes d'exécution, pardon, qui sont des actes non législatifs qui vont venir compléter des éléments non essentiels d'un acte législatif. Voilà. Donc comment fonctionne sa prise de décision ? Je vous le disais tout à l'heure, elle est composée donc d'un organe politique, hein, le Collège des commissaires, et en plus, il y a un organe administratif. En fait, c'est tous les services de la Commission qui sont eux-mêmes divisés en direction générale, donc c'est les fameuses DG qu'on appelle dans le jargon, on va avoir la DG climat, la DG commerce, etc., qui sont elles-mêmes rattachées à un commissaire. Et ces DG ont pour charge d'élaborer, de mettre en œuvre et de gérer les politiques et la législation. Et donc c'est bien sûr ce qu'il faut avoir en tête, hein, c'est une institution collégiale, donc elle prend ses décisions en tant que telle et elle statue par consensus. Et combien de fois elle se réunit ? Donc elle se réunit comme le Conseil des ministres français, une fois par semaine. Et bien sûr, elle est présente sur la scène internationale parce qu'elle est en charge justement des relations à l'extérieur de l'UE.
Alors, si je peux juste me permettre là, parce que si on, là en fait tout est dit, et je pense que si vraiment vous devez sortir de cet audio avec un takeaway, c'est que la Commission 1 a le monopole des textes. Hein, je pense que là Margot a été très claire. Donc si vous devez garder les choses, c'est que les seuls qui sont capables de mettre sur la table comme ça pour être discutés, devenir des lois, c'est la Commission. Ça c'est le premier point. Si on fait un petit parallèle et tu l'as juste effleuré, c'est qu'en effet on pourrait voir les commissaires et autres comme une sorte de gouvernement biodégradable tous les 5 ans. Donc automatiquement, on a une nouvelle présidente avec un mercato qui s'ouvre sur qui sera le ministre pour son état personnel et représentera avec un portefeuille qui, selon les pouvoirs en présence, selon l'actualité, selon parfois aussi l'ADN même du pays. Les Roumains adorent avoir l'agriculture. Là, ils ont eu le transport, mais on sait très bien que ça a été de haute lutte, qu'ils avaient essayé de garder l'agriculture. Donc tout ça fait que la Commission européenne est vraiment le résultat, est un organe fondamental, un gouvernement pour 5 ans, est fondamentalement importante pour les États, puisque selon le portefeuille qu'ils ont, ils vont agir plus fortement que d'autres. Voilà, je voulais juste, si vraiment il y a des choses à se souvenir, c'est ça, monopole et la Commission pour 5 ans, une sorte de gouvernement qui se compose donc de responsables des États qui, selon le profil, vont porter quelque part leur pays, même si la neutralité est de bon ton. Et voilà. Je t'en prie.
Merci Marie-France. Sur cette deuxième slide, on a essayé de vous recenser. Bon, c'est assez exhaustif, hein, ce que produit la Commission. Donc, avant toute chose, il faut avoir en tête qu'en fait, elle fait des consultations publiques, donc là, qui sont ouvertes à tous les citoyens. Donc, ce sont pas des actes contraignants, hein, mais c'est juste pour recueillir les avis des citoyens tout au long du cycle d'élaboration des politiques. Et ensuite, les deux principaux actes que produit la Commission, ce sont le règlement et la directive. Le règlement donc est directement applicable et obligatoire dans tous les États membres sans avoir besoin d'être transposé, tandis que la directive, elle, est transposée. Et en fait, c'est un acte législatif obligatoire quant aux résultats à atteindre, mais qui va laisser la liberté aux États sur les moyens pour y parvenir. Voilà. Et enfin, peut-être deux mots sur l'acte délégué, je l'ai effleuré tout à l'heure. C'est en fait un acte non législatif qui va compléter ou modifier des éléments non essentiels des actes qui sont législatifs pour le coup. Voilà.
Merci Margot. Une question là justement qui m'a été posée en séance et du coup apporte un petit éclairage. En effet, les commissaires sont bien nommés. par leurs États. Par contre, ils ont quand même l'obligation, et on l'a vécu nous en France avec une Sylvie Goulard qui pouvait potentiellement être notre commissaire français au début, mais ils doivent automatiquement passer devant le Parlement européen qui va ou pas les adouber quelque part. Et donc justement, il est arrivé, et malheureusement avec le commissaire français, on l'a vécu, que les parlementaires ne soient pas du tout contents par le choix du pays en question et du coup le refuse de quelque part de l'introniser. Voilà. Donc oui, ils sont bien nommés, mais avec quand même un petit passage devant le Parlement où il faut qu'ils fassent la danse du ventre et ils arrivent à convaincre les élus pour pouvoir prendre fonction. Voilà. Alors après le Conseil, donc bah oui, tu as déjà passé, merveilleux. Donc Marie-Christine, le Conseil de l'UE.
Alors le Conseil de l'Union européenne. Comme Margot l'a dit, si la Commission européenne, c'est l'intérêt général, le Conseil de l'Union européenne, c'est la défense de l'intérêt des États membres, de chaque pays. Alors, qui y siège ? Ce sont les 27 ministres ou secrétaires d'État, naturellement, par type de formation, par thématique. Donc, quand on parle du Conseil ECOFIN, c'est donc, par exemple, Bruno Le Maire pour la France qui siège au Conseil. Il faut savoir, et il y a quand même un peu moins de travail en silo qu'à la Commission européenne. S'il y a plus d'une trentaine de directions générales à la Commission, il n'y a que, façon de parler, 10 formations, 10 grands groupes de réunions thématiques. Je vais vous donner par exemple compétitivité, parce que c'est quand même un sujet clé pour nous. Le Conseil compétitivité va traiter des sujets de marché intérieur, industrie, recherche, innovation et espace. Donc, naturellement, c'est difficile. Nous n'avons pas un ministre qui a un tel portefeuille en France, mais selon les sujets, ça peut être, par exemple, Roland Lescure pour les points industrie ou Sylvie Retailleau pour les points recherche. Donc voilà, les conseils ECOFIN, environnement, emploi. La plupart se tiennent à Bruxelles, sauf quelques mois par an. C'est pour aussi donner un peu une balance à chaque État membre d'avoir ses propres l'organisation de réunions au niveau européen. Donc, par exemple, le mois d'avril, toutes les réunions se passent au Luxembourg. Et au moment où je vous parle, ce sont les 27 ministres de l'Agriculture qui se réunissent. Il arrive naturellement qu'un ministre ou un secrétaire d'État ne puisse être présent. Dans ce cas-là, c'est l'ambassadeur de France auprès de l'Union européenne qui prend le relais. Dans tous les cas, les ministres, secrétaires d'État ou ambassadeurs peuvent engager la position de la France. Pour aider à prendre position, et c'est assez innovant, je dirais, pas pour nous Français, mais en tous les cas vis-à-vis des autres États membres. Nous avons, et certainement l'acronyme, vous le connaissez, c'est le SGAE, le Secrétariat Général aux Affaires Européennes. Ça dépend naturellement, c'est un service qui dépend de la Première Ministre, mais c'est surtout le service qui va faire toutes les réunions interministérielles qui seront nécessaires pour que la France puisse parler d'une voix unique et avoir une position claire. Donc, il y aura de toute façon eu des tractations, que ce soit sur la plupart des sujets ne sont pas uniquement industrie, c'est industrie qui peut toucher à un moment l'agriculture ou la recherche. Donc voilà, il y a tout ce travail d'interministériel pour que la France ait naturellement une position simple et claire. Qui assure la présidence des différents conseils de l'Union européenne, c'est le ministre dont le pays assure la présidence. Vous voyez en dessous les petits logos, actuellement c'est la Suède qui assure la présidence de l'ensemble des conseils de l'Union européenne. Donc c'est à chaque fois le ou la ministre naturellement suédoise qui a cette tâche, sachant que quand un pays assure la présidence les conseils de l'Union européenne, on dit en bon français qu'elle est honest broker, ça veut dire qu'elle va être à la recherche du compromis. La position de la Suède passe après. Elle est vraiment à la recherche du compromis. Alors là aussi, différence par rapport à la Commission européenne, les décisions sont prises majoritairement à la majorité qualifiée. Je ne rentrerai pas dans la méthode de calcul, mais en tous les cas, à part la fiscalité qui, elle, pour laquelle les décisions se prennent à l'unanimité, toutes les autres se prennent à la majorité qualifiée. Ce qui est toujours quand même intéressant, c'est on se pose la question, est-ce que c'est totalement une boîte noire, ces réunions? Non. Dans certains cas, les débats sont publics. Vous pouvez les suivre en direct sur le site du Conseil, hein, qui s'appelle Concilium. Le résultat des votes est aussi public. Là aussi, vous aurez l'information. Vous verrez dans certains cas si la France a voté en faveur ou pas. Et je pense que c'est vraiment le moment, je vous l'ai dit pour le Conseil européen, naturellement, là, c'est le chef d'État qui vient, mais pour les conseils de l'Union européenne, la France est toujours présente. Quand on entend ou on lit Bruxelles a décidé que, c'est faux. La France a toujours son mot à dire, d'ailleurs, comme les 26 autres États membres. Vous verrez, on vous le mettra naturellement dans les slides que vous recevrez. Tout ceci, toute l'actualité des conseils, quels qu'ils soient, quelles que soient les thématiques, on va vous mettre naturellement le lien. Vous verrez, dans la plupart des cas, c'est en anglais, mais beaucoup d'informations se trouvent aussi en français. Et peut-être juste un mot, ça, ce sont les conseils formels. Vous avez aussi, dans la plupart des cas, des conseils dits informels où les ministres échangent entre eux. Et il y a beaucoup de sujets. Là, il y a un conseil informel ECOFIN. Voilà, ils essayent aussi, c'est un peu un exercice de benchmark et d'aller prendre les meilleures idées, les bonnes pratiques chez les autres.
Merci Marie-Christine. En effet, le conseil, c'est assez intéressant, notamment si vous voulez suivre, parfois même vous avez des conclusions qui sortent quasiment en avance du conseil, puisque tout est déjà préparé en avance. C'est assez intéressant de suivre cet organe pour voir les prises de décision et surtout les jeux politiques entre États. Et on verra ça dans la deuxième session, donc là je vous tiens en haleine, mais où il faudra faire des stratégies de lobbying. Le rôle du conseil, son positionnement et surtout ses déclarations politiques donne beaucoup d'éléments dans une stratégie de lobbying pour justement savoir qui approcher et qui essayer de faire, on va dire, basculer d'un autre point. On ne pouvait pas, bien évidemment, finir ce panorama des institutions, sachant que on va laisser de côté d'autres institutions comme la Cour de justice et tout ça, mais on ne pouvait pas ne pas s'arrêter sur le Parlement européen. D'abord parce que, comme l'a dit, je ne sais plus si c'est Marie-Christine ou Margot, mais de toute façon, comme on vous le dit, la Commission va devoir, enfin, il va y avoir une élection européenne l'année prochaine en 2024. Le Parlement européen, vous allez devoir voter pour le Parlement européen. D'ailleurs, je vous appelle à aller voter pour le Parlement européen en 2024. C'est important et c'est d'autant plus important que Margot va vous montrer pourquoi c'est important.
J'espère. Pourquoi c'est important? Déjà parce que c'est une des seules institutions véritablement démocratique, parce qu'elle a justement ses 705 députés qui sont élus au suffrage universel direct pour 5 ans dans chaque État membre. Donc ils vont représenter les citoyens européens. Et donc le Parlement joue un rôle très important, hein, dans le processus législatif, parce qu'il est l'un des co-législateurs avec le Conseil de l'UE. Si je reviens aux députés qui constituent le Parlement européen, donc le nombre de députés élus dans chaque État membre dépend du nombre d'habitants qu'il y a dans les États membres. Donc nous, la France, on compte 79 eurodéputés qui siègent à Strasbourg et à Bruxelles. On est la deuxième nationalité la plus représentée, la première étant l'Allemagne avec 96 eurodéputés. Faut bien avoir en tête que les députés ils siègent pas par délégation nationale, hein, mais ils sont représentés par groupes politiques transnationaux. Donc on a sept groupes politiques qui sont représentés au Parlement et qui décrivent les différentes mouvances idéologiques de l'Union. Peut-être pour avoir un ordre de grandeur de la composition du Parlement, la droite, hein, est majoritairement représentée. C'est le fameux PPE, le Parti Populaire Européen, avec 176 13 sièges. Ensuite vient les socialistes avec 145 et les libéraux, le fameux groupe Renew Europe, avec 102 sièges. Qui préside ce Parlement? Alors actuellement, c'est la Maltaise Roberta Metsola qui a été élue en janvier 2022. Le Parlement est donc élu pour 2 ans et demi renouvelables, et donc le président, pardon, et donc ce président doit superviser les différentes activités du Parlement. Il veille au respect des procédures parlementaires et il représente bien sûr l'institution dans les relations extérieures. Ensuite, quelles sont ses compétences? Et là, je pense qu'on peut faire un parallèle avec le Parlement français, parce que, bah voilà, en premier lieu, il a des compétences législatives. Hein, le Parlement participe à l'adoption des actes législatifs. Il a également des compétences budgétaires, parce qu'il va établir avec le Conseil le budget annuel de l'Union. Petite spécificité, le Parlement va se prononcer que sur les dépenses, tandis que le Conseil va également se prononcer à l'unanimité sur la partie des recettes. Et enfin, le Parlement a des compétences de contrôle de l'exécutif. Donc il a, comme on le disait, un pouvoir d'investiture, hein, parce qu'il élit le président de la Commission européenne. Mais il peut également renverser cette commission en votant une motion de censure. Donc là, le parallèle est assez visible avec le Parlement français. Il a un pouvoir également de questionnement, hein, il peut, comme les fameuses questions au gouvernement du mercredi, mais il peut poser des questions écrites ou orales aux différents membres de la Commission et du Conseil européen. Et il a un pouvoir de créer des commissions d'enquête temporaires pour examiner des allégations d'infraction ou de mauvaise application du droit de l'Union. Voilà. Et après, concrètement, comment s'organisent ces travaux? Et ça me permet de glisser sur la slide suivante. Il faut bien avoir en tête que le Parlement, c'est un peu une institution nomade. Hein. Il siège entre Strasbourg et Bruxelles. Donc là, on vous a mis le calendrier de ce que pouvait représenter une année parlementaire. Donc il y a 12 sessions plénières qui, elles, se tiennent à Strasbourg, que vous voyez en rouge. Et ensuite, on a toutes les commissions parlementaires, les groupes politiques, etc., qui, eux, se tiennent à Bruxelles. Le Parlement, il faut savoir également qu'il est partagé en 20 commissions permanentes. Donc, on va retrouver la commission du commerce international, la commission du marché intérieur, la commission des affaires juridiques, etc. Ces commissions, elles vont préparer, en fait, les travaux des sessions plénières, c'est-à-dire qu'elles vont examiner, elles vont faire un premier examen des propositions législatives de la Commission, elles vont suggérer des amendements, et c'est ensuite le Parlement qui va travailler en session plénière, donc qui va débattre, et après qui va voter sur certains textes. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, et voilà, garder en tête ce qu'a dit Marie-France, que les prochaines élections, c'est au mois de mai 2024.
Alors, je peux pas croire qu'il n'y ait pas de questions sur le Parlement, parce que c'est quand même l'organe qui intéresse le plus et qui semble le plus hermétique et le plus incompréhensible. Mais n'hésitez pas, si vous en avez, en tout cas, on suit le chat avec attention. Non, ce que je voulais juste dire, au-delà des élections qui sont vraiment un message fort, c'est que dans justement la deuxième session avec les actions de lobbying, le Parlement, vous dites bien, est un acteur extrêmement clé dans ce jeu de l'influence, dans ces gens qui sont donc dans le mode de ce qu'on appelle la co-législation, et ça va faire l'objet justement d'un teasing par rapport à la suite, mais on va quand même finir sur le triangle institutionnel. Donc là, vous avez eu l'équipe, vous a présenté. Donc je vous passe, hein, on l'a dit, hein, la Cour des comptes de l'UE, la Cour de justice, la Banque européenne, tout ça. On va rester donc sur les trois qui sont, je ne sais pas s'ils apparaissent comme ça sur votre écran, mais moi je les ai là un peu en bleu turquoise. Et c'est ce qu'on appelle ce triangle institutionnel. Donc on ne peut pas aujourd'hui essayer de comprendre l'Europe et de choper un peu les petites phrases comme celle de Marie-Christine, quand vous entendez dire c'est Bruxelles qui a décidé, c'est pas le cas. Ben justement, c'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Ben tout simplement parce que aucune décision sort comme ça du chapeau d'une des institutions, mais est bien le résultat parfois douloureux d'ailleurs, mais un résultat de compromis de ce fameux triangle institutionnel. Donc, comme vous l'avez maintenant, vous le savez par cœur, parce que vous êtes très attentif, la Commission a posé sur la table les textes, donc c'est elle qui a le monopole, donc elle arrive avec un projet. Ce projet, automatiquement, va donner lieu à discussion, c'est ce qu'on appelle la procédure ordinaire législative. On ne va pas rentrer dans toute la mécanique européenne, mais si jamais ça vous intéressait, sachez que les affaires européennes du MEDEF sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Mais donc le triangle institutionnel, c'est avant tout la Commission qui propose un texte et qui automatiquement fait partir ça dans les tuyaux au même moment vers le Conseil et vers le Parlement. Donc maintenant, vous savez tout du Conseil de l'UE, de sa façon de voter, sa façon de discuter, de se réunir. Pareil pour le Parlement. Ce que peut-être n'a pas émergé des propos de Marie-Christine et de Margot, c'est la complexité par le nombre d'acteurs. Parce qu'en fait, c'est ça la problématique. C'est qu'on a vu, le Parlement, c'est 751 députés, des groupes politiques de différents pans, parfois des alliances qui se font, qui se défont. Le Conseil de l'UE, c'est avant tout des États qui, bien qu'ils appellent à la souveraineté de l'Europe et qui soient normalement tous en phase avec le projet européen de marché intérieur, marché unique et autres, ont quand même aussi leurs aspirations nationales. Et donc, automatiquement, tout ça doit se mettre autour d'une table à un moment donné pour voir émerger un projet de texte qui a pris en compte tous les éléments d'abord de ces institutions, mais institutions qui ont été alimentées, et c'est bien là où tout se joue, et c'est bien là où il faudra qu'on revienne avec vous sur la deuxième session, sur le fait qu'il y a plein de gens qui vont dire le contraire de vous, parce que sinon ça serait pas drôle. Et donc automatiquement, quand on voit aujourd'hui, quand on parle de Bruxelles et quand on parle du lobbying, et ça sera bien l'objet de notre deuxième session, c'est de voir un peu comment identifier, cartographier tous ces acteurs qui sont très divers, donc ceux qu'on vous a présentés, essentiels aujourd'hui les institutions, mais après tous ceux qui gravitent autour des institutions et qui bien évidemment sont des représentants d'intérêts spécifiques, qu'ils soient sectoriels, européens, internationaux ou bien sûr les ONG. Et comme je le dis très souvent, ne vous méprenez pas, et je pense que vous l'avez senti, en tout cas tous autour de la table, pour ceux qui s'intéressent juste ou ceux qui ont déjà eu à fréquenter la bulle bruxelloise, les ONG désormais sont des parties prenantes extrêmement professionnalisées. Elles portent aujourd'hui une société moralisatrice qui fait que l'entreprise a de plus en plus de mal à faire entendre son point de vue qui est pourtant fondé sur la création de valeur qu'elle fait au quotidien. Donc là, il y a vraiment un jeu de lobbying qu'il faut garder en tête. Je reviendrai juste deux secondes parce que j'avais oublié ce slide, et là je m'en excuse. C'était la terminologie européenne des actions. Comme Margot vous a présenté une terminologie un peu des actes législatifs ou apparentés, là, souvent, vous entendez des termes, alors si c'est pas la presse, c'est vos collègues, ou peut-être même nous, d'ailleurs, qui nous gargarisons avec des termes que vous ne comprenez pas. Donc, un petit zoom rapide, qui d'ailleurs va refléter par rapport à ce triangle institutionnel. Tout d'abord, le mandat, parce que c'est comme on l'a dit, hein, ce triangle institutionnel amène que la Commission demande au Conseil et au Parlement de se positionner, mais ils ne peuvent pas se positionner juste, il n'y a pas juste le président du Conseil ou la présidente du Parlement qui va décider toute seule quelle sera la position de ses pairs. Donc ils ont besoin d'avoir un mandat. Et ce mandat, en fait, ils l'obtiennent dans les fameuses commissions dont vous a parlé Margot, où tout le monde pour le Parlement se met d'accord, tout parti confondu. Donc c'est des mini-parlements, en fait. Commission environnement, la commission transport. Il y a à peu près le même jeu politique qu'il y a dans une grande plénière du Parlement. Ils se retrouvent et là, ils décident de ce que pourrait être le mandat du Parlement sur chaque texte. Donc une diversité, bien évidemment, de rapporteurs, de gens qui prennent des textes, des shadows. Enfin, il y a plein de terminologies comme ça qui sont, on va dire, pas de la clé de 12, mais un petit peu, donc on a préféré là ne pas rentrer dans ce détail-là. Mais il faut savoir que c'est ça aussi qui fait un peu la dynamique de l'Europe et peut-être sa complexité. Le Collège des commissaires, Margot en a parlé, donc je n'y reviendrai pas. Les réunions COREPER, ça aussi vous l'entendez très souvent. COREPER, c'est pour le comité des représentants permanents. Et là, c'est contre-intuitif. Le COREPER 1, c'est le représentant permanent adjoint. C'est celui qui va s'occuper de tous les textes extrêmement techniques. Ça peut être le Data Act, ça peut être la réglementation CO2. Enfin, du moment que c'est une réglementation extrêmement technique. Et alors que le COREPER 2, c'est directement l'ambassadeur et ça va être beaucoup plus des questions de politique générale, financière, politique internationale, bien sûr. Donc complètement un peu décalé, bien évidemment il suit, mais il est un peu plus décalé. réunions régulières et autres. Le trilogue. Alors, je passerai sur le SGE parce que je crois que tu en as parlé, ou je sais plus, je crois que c'est Marie-Christine. Le trilogue. Par contre, le trilogue, ça, c'est fondamental. Et le trilogue, j'y reviens tout de suite. Puisque quand on parle, justement, et là, c'est le dernier slide, hein, je vous rassure, il fait peur, mais c'est le dernier slide. Et donc, automatiquement, on va faire vite pour laisser la place aux questions, puisque c'est le slide un peu intermédiaire entre cette session et l'autre session, la prochaine session. C'est-à-dire que là, vous voyez bien qu'il y a un jeu d'acteurs monstrueusement dense, et que justement, quand on parle des trilogues, c'est un peu l'aboutissement de ce triangle institutionnel. La commission propose, pose sur la table un texte. Le Conseil et le Parlement obtiennent leur mandat et viennent discuter dans ce qu'on appelle un trilogue. Tout le monde se met à discuter et tout le monde commence à voir émerger un compromis. Parce que le but du final, c'est bien évidemment d'avoir un compromis par lequel on pourra retourner dans ces pénates, le Conseil et le Parlement, pour faire voter par tous les pairs le fait qu'on a trouvé un texte. Voilà. Donc, ce trilogue est fondamental, vous l'entendez à toute sauce. Donc, ça, c'est que le trilogue, c'est juste une sorte de forme de réunion. Mais au bout du bout, vous avez un accord et vous avez le texte qui, après, du coup, rentrera dans la dynamique de validation. Et donc, ce slide très dense montre ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas parce que nous, on veut pousser à droite que tout le monde veut pousser à droite et qu'en plus, les jeux politiques, qu'ils soient au niveau des États, au niveau des organisations et autres, est bien évidemment un sport à lui tout seul. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 15 et on s'était promis d'arrêter justement pour laisser la place aux questions. Céline, des questions ? Sur le chat, mais je peux me mettre sur le chat, bien évidemment. Allez, on y va. Donc, oula, oui, sur le chat. Alors, je vais faire dans l'ordre, comme ça en moins. Bonjour, allons-nous recevoir votre support de présentation ? Alors, ça va être même mieux que ça. Vous allez recevoir, en effet, ce PowerPoint, mais il va être agrémenté des questions qu'on vous a données. Puisque, comme vous avez vu, Marie-Christine et Margot se sont amusées à faire des slides de questions ouvertes. Après, elles se sont données à fond pour y répondre. Mais vous aurez, du coup, les slides agrémentés des réponses. Ça sera plus simple, quand même, pour pouvoir capitaliser sur tout ce qu'on vous a dit. Et comme ça, pour la prochaine session, vous aurez toujours le petit PowerPoint de base. Vous aurez toutes les définitions et un peu tous les propos qui ont été tenus. Après, nous avons, idem si possible de mettre dans la boucle d'envoi, mais on le fera, je suis sûre que Céline a bien pris en compte. Alors, pas de proposition de loi au PE, c'est la commission qui règle les travaux. Alors, la question est posée d'abord il y en avait une autre avant. Une question, est-ce que les commissions permanentes modifient les textes comme en France ? Alors, il y a Margot tout de suite qui a dégainé, mais alors plus rapide que l'éclair. Donc, du coup, vas-y, je te laisse répondre.
Oui, je suis pas rentrée dans les détails au niveau du Parlement, mais en fait, quand la commission propose un règlement ou une directive, en fonction de la thématique de ce règlement ou cette directive va être saisie une commission, ce qu'on appelle la commission au fond, et dans cette commission au fond, il va y avoir un rapporteur qui va écrire son rapport et en fait, il va proposer des amendements à ce texte. Après, bon, il y a tout un jeu d'acteurs dans cette fameuse commission entre les shadow rapporteurs, ces fameux rapporteurs fictifs, les autres députés qui sont membres de cette commission permanente, etc. À la fin, ils se mettent tous d'accord et on a la position de la commission au fond. Et cette position de la commission au fond est ensuite votée en séance plénière au Parlement pour définir le fameux mandat du Parlement qu'expliquait Marie-France tout à l'heure. Donc oui, c'est le texte que produit la commission peut être transformé au fur et à mesure du processus législatif.
Merci Margot. Et alors juste, après, donc,
pardon, oui. Juste naturellement d'ajouter, il n'y a pas que le Parlement européen qui modifie le texte de la Commission européenne, les conseils thématiques aussi. Donc, naturellement, et c'est pour ça que là, le schéma, on voit à chaque fois qu'une seule flèche, mais il y a un système, au moins 4 ou 5 fois, le texte va repasser devant le Parlement, devant les conseils thématiques. Donc, naturellement, il y a aussi des instances préparatoires au niveau des conseils thématiques qui amendent aussi le texte. Et je dirais que il y a un arbitre qui est quelque part un peu la commission qui dit « mais on veut quand même arriver à l'objectif que nous, on s'était fixé ». Donc, c'est un jeu à trois, hein, le trilogue, et le mot est suffisamment clair. Mais le conseil aussi, naturellement, amende les textes.
Merci Marie-Christine. Alors pour aller vite et essayer de répondre à toutes les questions, et donc ce que viennent dire hein, Marie-Christine et Margot, c'est bien dans ce triangle institutionnel, tout ce qui se fait d'un côté et de l'autre se fait un peu en miroir pour après se retrouver tous autour d'une table qu'on appelle donc le fameux trilogue. Pas de proposition de loi au PE. Alors en fait ce qui se passe c'est qu'on ne parle pas vraiment de proposition de loi, on parle de rapport d'initiative où justement le Parlement est porteur d'une idée et voudrait la soumettre à la Commission, ce qu'il fait d'ailleurs assez régulièrement sur dans tous les domaines. Par contre, la Commission est en droit de refuser. Hein, je parle sous le contrôle de Margot.
Oui, mais il faut qu'elle le justifie, par contre, si elle le refuse. Il n'y a pas que le Parlement, hein, le Conseil est également... J'avais en tête, je crois, c'est 5-1 million de citoyens européens qui peuvent également faire proposer une idée pour légiférer.
Absolument. Donc en cela, il y a un petit parallèle d'ailleurs avec le droit français et les fameuses, je crois, c'est RIP, mais voilà, mais je vais peut-être pas le droit français, je vais peut-être pas me lancer. Alors après, quels sont vraiment les pouvoirs du Parlement? Peut-il avoir l'initiative? Donc là, on vient d'en parler, mais quand on dit quels sont les pouvoirs du Parlement, juste une petite parenthèse, c'est important parce que le traité de Lisbonne, je crois que c'est Marie-Christine qui le soulevait tout à l'heure, a quand même petit à petit, de l'Europe de 1957 qu'on connaissait, communauté européenne, et là où on est arrivé avec le passage, Maastricht, un peu tout ce que, qui était listé pendant notre présentation, le traité de Lisbonne, qui est donc le dernier, donne encore plus de pouvoir au Parlement, avec des compétences élargies. Et c'est bien ça, la force ou la faiblesse du Parlement. Sa force, parce qu'automatiquement, il est plus acteur de la vie démocratique européenne. Sa faiblesse, c'est qu'il pense du coup que ça lui a donné tellement de pouvoir que tout doit passer par lui. Et donc, ça donne un jeu du coup dans l'influence qui peut parfois être un peu compliqué. Si je continue donc, attendez, je descends rapidement. Vous avez parlé de 7 institutions, j'en ai compté 6. Bien joué, il y en a un qui suit. Enfin, il y en a une d'ailleurs. Et bon, en fait, c'était
si
la
peux
banque.
Oui. On va juste les citer. Donc, effectivement, Conseil européen, Conseil de l'Union, Commission, Parlement, ça c'est ça. Par contre, triangle institutionnel et bulle européenne ne font pas partie des institutions. Les autres institutions sont la Banque centrale européenne, la Cour de justice et la Cour des comptes. Mais je pense qu'on rajoutera une diapo simplement en rappelant les 7 institutions.
Mais je félicite quand même, Véronique, qui a bien chopé, qui en avait 6, et donc il nous manquait la Banque centrale. Juste pour répondre à la question, donc en effet, ces 6-là, plus la Banque centrale, et comme le dit Marie-Christine, on verra dans les slides qu'on pourra vous envoyer comment agrémenter quelque chose qui vous donne des éléments supplémentaires. On entend également parler de comitologie. Alors, mais bien évidemment, alors là, il va nous falloir une session à elle toute seule quasiment, si on veut vous parler comitologie, mais on va essayer de faire simple. Quand Margot, et si je reviens, je crois qu'il y a le slide sur les actes délégués, non?
Oui.
Tu veux peut-être en dire deux mots? Quand on parle de comitologie, en fait, c'est quoi? C'est que la procédure législative ordinaire, vous avez donc un grand texte qui arrive, et qui automatiquement, j'arrive pas à le, si tu peux arriver à le mettre juste pour qu'il y ait la définition, et qui donc donne un texte global. La comitologie, c'est que dans tous les textes, que ça soit des règlements ou de la directive, il y a quand même de la clé de 12 à gérer. Enfin, à un moment donné, un texte ne peut pas tout régler dans ses détails. Et donc, d'ailleurs, petite parenthèse, parce que je sais pas si tu l'as dit, mais je me permets, à la rigueur, ça sera juste une répétition, mais donc, le règlement d'application directe, politiquement, n'était pas le texte favorisé le plus par l'Europe, il fut un temps, parce que justement, comme il était d'application directe, les États étaient assez frileux à aller vers ce texte. Donc, beaucoup de directives dans les années 80-90, mais la directive avait sa limite, et vous le savez, c'est la transposition. Donc, bien évidemment, il faut qu'elle soit transposée le plus... on va dire, plus proche du texte possible. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une petite fragmentation du marché intérieur, parce que tout le monde y allait un peu de sa petite transposition à lui, qui, à la marge, c'était pas énorme, et qui, après, pris sur le long terme et autres, amenait à des distorsions qui étaient inacceptables. Donc, de plus en plus, on est sur du règlement. Le problème du règlement, c'est comme il est d'application directe, on rentre beaucoup moins dans les détails. Parce que justement, les États savent bien que là, leur marge de manœuvre va être nulle. Et donc, dans ce règlement, mais aussi dans les directives, mais il y a ce qu'on appelle des actes délégués, qui permettent du coup à la Commission, donc les institutions donnent droit à la Commission de régler des problèmes techniques spécifiques. Et donc là, il y a des working parties très techniques dans tous les domaines, automobile, chimie et autres, où justement des experts, des États notamment, se réunissent pour mettre en place ces actes délégués. je ne sais pas, en quelques mots, hein, et vraiment très schématisé. J'espère que ça répond à votre question. Voilà. Comment s'effectue l'arbitrage entre projet de directive? Ah ben, donc là, j'avais pas vu cette question. Je suis pas sûre qu'il y a un, enfin, si, est-ce qu'il y a un arbitrage politique? J'aurais tendance à dire que ça dépend un peu du texte et de la complexité du sujet. Je suis pas sûre qu'il y ait une réponse ultime par rapport à cette question, mais je pense quand même que les États, selon le sujet, doivent un peu poser le pour et le contre par rapport à leur droit national. N'oublions pas quand même que on n'a pas fait totalement ce parallèle avec le droit national, mais donc il y a des, la France, et l'exemple de la due diligence en est un bon exemple, c'est que la France avait dégainé un peu avant tout le monde, a voulu montrer en forme d'exemplarité que c'était possible. Au final, l'Europe s'en est saisie et a fait ce qui est sur la table aujourd'hui et qui nous convient très peu. Et donc, est-ce qu'il y a un arbitrage à un moment donné sur ce type de document en se disant, est-ce que j'en fais plutôt une directive, est-ce que j'en fais plutôt un règlement par rapport à ce que j'ai déjà dans mon droit national? J'ai pas la réponse ultime. Mais je pense qu'il y a des arbitrages, certainement, en tout cas individuels, pays par pays, qui doivent se faire.
Peut-être à garder également en tête que, voilà, si on va vers une directive, on a quand même ce risque de, enfin, Marie-France l'a soulevé tout à l'heure, mais de fragmentation du marché intérieur et de se retrouver après avec 27 législations différentes. Voilà.
Alors, la question, comment se distribuent les nationalités au niveau des administrations de l'UE, en particulier au sein des DG? On dit que c'est l'Allemagne qui est largement en tête. Alors ça, c'est le syndrome de « les autres font toujours mieux que nous ». Je suis sûre que Marie-Christine aura très certainement une réponse très chiffrée. Moi, j'ai déjà vous donné mon opinion un peu générique. D'abord, non, je ne pense pas que l'Allemagne est plus largement en tête ou pas. Je pense que si on commence vraiment à compter ces petits, on verra qu'en effet, il y a des vagues successives. Nous, c'est vrai qu'on a eu une vague, on a eu des départs en retraite au niveau des DG il y a 5-6 ans. Donc, automatiquement, ça a fait des appels d'air. Mais on ne voit pas qu'en embuscade, on a quand même beaucoup de chefs d'unité qui montent, qui sont là. Donc, c'est vraiment une question de je ne sais pas de hiérarchie, mais de démographie. Enfin, les âges, l'arbre des âges. Là. Donc moi je pense qu'il faut surtout qu'on se dise que on a une très très bonne représentation permanente qui est reconnue sur Bruxelles, qu'il faut en sorte, avec les moyens du bord, de mettre quand même beaucoup d'experts nationaux détachés, qu'ils s'arrangent pour justement créer un vivier au sein de la commission pour pouvoir voir émerger tout au long des années des potentiels qui prennent justement des postes importants. Marie-Christine, tu veux peut-être rajouter?
Très rapidement. Je viens de vérifier, les deux États membres qui ont le plus de fonctionnaires, notamment la Commission européenne, sont la Belgique et l'Italie avec 13%. La France arrive en troisième position et l'Allemagne très loin derrière avec uniquement 6%. Et au niveau du management, France et Allemagne sont totalement au même niveau. Et où il y a peut-être une légère différence, si je peux me permettre, c'est au niveau des membres de cabinet des commissaires. Hein, comme au niveau national, au niveau des ministères, il y a des cabinets. Au niveau européen, chaque commissaire dont a parlé Margot a aussi son propre cabinet. Et là, il y a peut-être un peu plus d'Allemands. Mais de façon globale, la France arrive en troisième position et très loin derrière, quatrième.
Merci Marie-Christine. Donc voilà, donc les chiffres confirment. Comment ?
Je vois une question concernant le nombre de...
Oui, je continue à descendre, j'attendais que c'est fini. Donc, après, nous avons une question. Reviendrez-vous lors de la deuxième session sur le pouvoir d'initiative de la Commission? Alors, quelque part, sur la clé 12 du pouvoir d'initiative de la Commission, je ne pense pas. Par contre, on sera obligé d'y revenir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de lobbying, de comment ça marche et autres, sans parler justement du fait que dans les stratégies de lobbying, il y en a une que moi j'appelle toujours la stratégie de l'inspiration, et que justement, on peut être porteur d'inspiration et de donner des idées à la Commission. Et on a, dans la deuxième session, je vous présenterai quelques exemples que j'ai moi-même eu à connaître quand j'étais avant en entreprise. Donc oui, quelque part, on y reviendra. Voilà. Donc si vous aviez par contre une question très spécifique là-dessus, ne pas hésiter à me la passer et je ferai en sorte que vous aurez la réponse. Ou alors la poser maintenant. Hein. Combien de représentants français dans sa représentation permanente à Bruxelles? 150. Voilà. Il y a eu un pic pendant la présidence française. Ils en ont profité pour refaire tous les locaux qui avaient un petit côté air 70s, qui était d'ailleurs assez glamour, un peu suranné. Ils ont tout modernisé et ils sont montés, je crois, jusqu'à 280 à un moment donné. Et là, ils sont revenus en sorte de croisière à 150. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions. Et il est 29. Non, mais si ça, c'est pas du talent. Je sais pas. Alors, il y avait un dernier. Ben oui, mais du coup, c'est un peu perdu dans les slides. Donc, à nouveau, merci à toutes et à tous pour avoir été là. Merci de vos questions. L'idée, c'est. Qui est fonctionnaire européen ? Ah, il y a une dernière question, allez, pour le fun. Qui est fonctionnaire européen ? Alors, d'abord, il y en a beaucoup de fonctionnaires européens. Il faut passer un examen. C'est pas donné à tout le monde. Et donc, vous avez, je sais pas, comment il s'appelle cet examen ? C'est pas le Blue Book ou... Il y a des choses à tout niveau selon les âges. Vous avez un système de stagiaires Blue Book qui vous ouvre déjà un peu, vous voyez comment c'est. Et après, vous pouvez passer un examen, on va dire, Jones. Vous avez après un autre examen pour les un peu plus seniors. Et il y en a quelques-uns qui ponctuellement ont le statut, mais très temporaire, quand leur gouvernement les détache. Vous êtes d'ailleurs ce qu'on appelle des END, ce qui n'est pas très porteur, les experts nationaux détachés. Et là, je pense que en plus de leur contrat, Marie-Christine peut-être sous son contrôle, je pense qu'ils prennent le statut de fonctionnaire européen pendant la période du temps. Voilà. Voilà. Donc là, c'était la dernière question. Donc à nouveau, merci à toutes et à tous. Donc la deuxième session, ça sera vraiment le lobbying. Donc là, on vous a vraiment fait un panorama et j'espère que vous, d'abord, vous avez apprécié. D'autre part, pour ceux qui savaient déjà, vous avez peut-être découvert des petits trucs. Pour ceux qui ne savaient rien, que c'était très clair. Et bien évidemment, on est à votre disposition s'il y a toute question. La deuxième séance, fort de ce qu'on vous a donné là comme élément sur les acteurs clés quand même institutionnels, on va beaucoup vous parler de comment du coup les acteurs privés vont un peu décider d'agir et d'influencer. Et donc voilà, donc on espère que vous serez là, on compte sur vous.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.